Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une enquête menée sur 54 000 produits alimentaires par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et le constat, on peut le dire, est sans appel. Le sucre est présent dans 8 produits sur 10 vendus en France. Il est partout, y compris là, franchement, où on ne l'attend pas. Chips, pizza, vinaigrette, charcuterie. Quand on sait que l'OMS recommande 50 grammes de sucre par jour, l'enjeu de santé publique est énorme et passe parfois sous les écrans radar au moment où les prix de l'alimentation en pleine crise de l'inflation est devenue la principale préoccupation des consommateurs. Des méthodes de désintoxication au sucre sont devenues des best-sellers dans le monde entier. Alors que dit précisément cette enquête? Pourquoi les industriels sont eux aussi accros au sucre? Quel est le rôle des lobbies? Quels sont les risques sur la santé? Sucre, enquête, révélation et addiction, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le Gérald Kirzek, c'est-à-dire le général Kirzek. Pas encore. Vous êtes médecin urgentiste, directeur médical du site Doctissimo. On peut vous retrouver dans Télématin, sur France 2. Votre dernier livre, Leçon d'anatomie, est publié aux éditions Albin Michel. Avec nous ce soir, Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès, société d'analyse économique et de conseil. Vous êtes chroniqueur à l'Express, à Europe 1. Et puis je cite votre livre qui vient de paraître, La civilisation de la peur, publiée chez Ixo Éditions. Avec nous ce soir, Camille Doriot. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes directeur des campagnes de Foodwatch France. Enfin, bonsoir. Anne Sénéquier, vous êtes psychiatre, vous êtes chercheur santé, environnement, climat à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Camille Doriot. Que dit ce rapport ?8 produits sur 10.
Moi, je pense qu'on a tout dit à partir de là. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a du sucre partout. Dans tous les produits. En fait, il se cache partout. Et en fait, c'est même très compliqué pour le consommateur de le trouver parce qu'on s'était amusé à regarder un peu les noms du sucre dans les produits, dans la liste des ingrédients. On en trouve plus de 50 différents, de noms différents. Ça s'appelle sucre, mais ça s'appelle dextrine, galactose, éthylmaltol, sirop d'agave. Et même des fois, c'est de la purée de pommes, des purées de fruits. Mais en fait, tout ça, à la fin,
c'est du sucre.
Et c'est des sucres libres. Et c'est ceux, justement, qu'il faut éviter au maximum dans notre alimentation.
Ce qu'on découvre, enfin moi, ce que j'ai découvert dans cette enquête, en tout cas, c'est que quand on dit il est partout, là où on ne l'attend pas, pourquoi est-ce qu'on retrouve du sucre dans des chips, dans de la charcuterie?
Alors, on va retrouver, par exemple, dans la charcuterie, c'est un conservateur, c'est aussi un exhausteur de goût. Hein. Mais bon, on met aussi des conservateurs à côté, des additifs qui conservent et du sucre. Du coup, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on retrouve du sucre ici. Dans les chips, bah, du coup, c'est pour adoucir le goût. Mais j'en ai vu aussi, hein, moi, dans des poêlés de légumes surgelés, dans des boîtes de conserve de haricots verts. En fait, moi, l'impression que ça donne, c'est que chaque gramme de sucre qu'on met à l'intérieur d'un produit, c'est un gramme d'haricots verts que vous ne mettez pas dedans et ça permet de faire des grandes économies.
Mais ça veut dire qu'on suscite notre addiction au sucre quand on en met dans une poêlée de légumes du sucre. C'est parce que nous, on est habitués à ce goût-là.
En tout cas, on nous a habitués à ce goût-là. C'est vrai qu'à force de rajouter du sucre partout, tout le temps, les industriels nous ont totalement formatés à ce goût sucré. On les remplace même par des édulcorants aujourd'hui. Hein. Du coup, c'est pour vous dire à quel point on cherche à maintenir ce goût sucré dans notre alimentation.
Anne Sénéquier, sur le constat qui est dressé par ce rapport, j'imagine que vous n'êtes pas surprise, mais cette proportion, quand même, l'ampleur de la présence du sucre dans l'alimentation, quand on refait, on l'a tous fait dans la rédaction, son menu du jour, on se fait peur.
C'est vrai qu'on se fait peur. Après, il y a eu, au cours des décennies précédentes, beaucoup de recherches aussi sur l'alimentation. Il y a eu, à un moment donné, le focus sur la graisse dans les aliments et il fallait absolument alléger en graisse. Et du coup, sur les industriels, ils ont enlevé la graisse et ils l'ont remplacé par le sucre. Il a fallu aussi avoir une conservation prolongée, une facilité de consommation. Et tout ça, ça s'inscrit finalement dans cette temporalité où aujourd'hui, finalement, pour avoir des aliments qui se conservent, des aliments qui sont toujours les mêmes, que vous les achetiez à Brest ou à Singapour, eh bien, c'est de la transformation, c'est des conservateurs, c'est effectivement... Et ce sucre, finalement, il interagit partout. Et effectivement, on a ce conditionnement au sucre et ça va amener une appétence.
Addiction ou conditionnement ?
Pour l'instant, conditionnement. En fait, c'est vrai que les études vont, certaines vont dire oui, c'est une vraie addiction. Alors, il y a eu des études sur les souris à qui on a donné du sucre, à qui on a proposé de la cocaïne, qui sont allées plus vers le sucre. Donc après, aujourd'hui, l'éthique fait que, bien sûr, on ne va pas faire ces études sur l'être humain. Aujourd'hui, il y a un véritable conditionnement, tout simplement, parce que ça actionne un rétrofeedback positif dans le cerveau, qui est une récompense et qui se base sur les millions d'années qui nous précèdent.
Gérald de Kierzek, et on va revenir, ça commence très tôt, cette addiction, cette sensibilité au sucre. Gérald de Kierzek, sur le contenu de ce rapport, quand vous l'avez découvert ce matin, vous vous dites à un moment donné, c'est un scandale, c'est pas possible qu'on ne s'empare pas de ce sujet-là.
Alors, rien d'étonnant, c'est-à-dire que quand on regarde ce rapport, on le sait qu'il y a des sucres cachés, du sel caché et de l'ultra-transformation. Parce qu'en fait, les trois sont un peu indissociables. Et quand Anne parle de sucre qui est passé ennemi public numéro un, alors qu'il y a 20 ans, c'était la graisse, c'était le cholestérol, où on vous disait il faut pas manger gras, faut pas manger de charcuterie, et c'est votre cholestérol qu'on va regarder sur votre analyse
de sang. On ne dit pas aujourd'hui que la graisse, c'est bien.
La graisse, c'est moins mal que le sucre. En tout cas, le sel, le sucre, il y a pas mal de découvertes en termes de nutrition qui montrent que maintenant, le sucre, très clairement, c'est quelque chose qui est toxique, qui est addictif et qui est ce qu'on appelle inflammatoire. Et l'inflammation dans l'organisme, c'est quelque chose qui va faire vieillir plus vite, vieillir les artères, vieillir la peau, vieillir le corps, oxyder, ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et cette inflammation-là, elle est clairement déclenchée par le sucre. Mais le sucre, il n'est pas tout seul. C'est le sel, le sucre et l'ultra-transformation. Et quand on parle de la même nourriture qui doit être conservée, donc on rajoute des conservateurs, parce qu'on va manger la même nourriture qu'à Singapour ou qu'aux États-Unis ou qu'en France, il est peut-être là le problème. C'est-à-dire que c'est un problème beaucoup plus global et que le circuit court, et on sait tous les problèmes de nos agriculteurs, etc. Ce circuit court, il était bon pour nos agriculteurs, mais il est bon pour notre organisme et il permettrait justement de rajouter moins de sucre.
Et ça, on va en parler ce soir. Vous avez raison, on a pris ce sujet-là et quand on tire sur la pelote, ce qui vient derrière, ce sont des problèmes de fond qu'on va essayer d'aborder avec vous ce soir. Juste sur ce chiffre que j'ai donné rapidement, l'OMS dit 50 grammes de sucre par jour. C'est peu.
Oui, c'est peu, mais attention, c'est quel sucre ? Parce que c'est pas uniquement rajouter du sucre dans son café ou mettre de la confiture sur sa tartine, il y a tous les sucres cachés, plus qu'on va rajouter, et on a cette espèce de réflexe de mettre des morceaux de sucre, plus on a des boissons sucrées. Dans les réflexes qu'on a, les vieux réflexes, c'est de dire le matin, il faut un jus d'orange, par exemple. Non, parce que si on prend un jus d'orange industriel, c'est bourré de sucre, donc on va rajouter, c'est comme ça qu'on arrive à 10 grammes, plus 10 grammes, plus 10 grammes, et on arrive très facilement aux 50 grammes. C'est pareil pour le sel, où l'OMS dit qu'il faut autour de 5 grammes, 5 grammes, pas 50 grammes, mais avec tous les sels cachés, il suffit de rajouter la salière et là, on a explosé les normes et les limites.
Et on va se pencher dans un instant sur le rôle des industriels et pourquoi est-ce qu'ils ont pris le pli et qu'ils mettent du sucre partout. Nicolas Bouzou, sur le début de notre conversation et sur ce rapport qui montre que vous mangez une pizza, en fait, vous mangez du sucre.
Alors, moi, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les questions d'économie de santé et de prévention, donc je suis arrivé à ce sujet par là et donc je vois passer un grand nombre d'études scientifiques, bien que je ne sois pas médecin, et donc je me suis absolument convaincu que le sucre était en train de devenir un problème de santé publique, mais majeur, énorme, avec finalement sans doute des concitoyens qui sont assez mal informés, c'est-à-dire que chacun connaît les effets nocifs du tabac, chacun connaît les effets nocifs de l'alcool, mais le sucre, à mon avis, est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas bien dans le radar. Et après, moi, ce qui m'intéresse du point de vue économique, c'est qu'il y a des raisons économiques pour lesquelles, en fait, on met énormément de sucre dans les aliments, parce qu'en effet, c'est un conservateur, parce que ça flatte le goût, parce que ça, quand même, génère aussi des comportements d'addiction. Donc, vous avez, toute une des justifications économiques. Mais ça a aussi des conséquences économiques et notamment des conséquences financières, parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui à la sécurité sociale, ce sont les maladies chroniques, et les maladies chroniques sont notamment lié à ces excès de sucre dont on parle.
Et on va poursuivre cette discussion. En tout cas, je voudrais qu'on voit en détail ce rapport qui a été publié par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et qui sonne une nouvelle fois comme un rappel à l'ordre. Le sucre est partout dans presque 8 produits sur 10. On le retrouve aussi, on l'a dit, et c'est un peu contre-intuitif, dans des plats salés, charcuterie, pizza, sauce, le glucose en vecteur de goût dont les industriels et les consommateurs, il faut bien le dire, raffolent. Anne Maquignon, Léo Seux et Michel Bouilly.
Dans nos placards, il se cache absolument partout. Le sucre se niche dans nos biscuits, nos glaces, nos jus. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais le sucre s'invite aussi là où on ne l'attend pas, comme dans nos produits salés. Qui peut imaginer que dans un bol de chips, il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre et l'équivalent de 5 morceaux dans une part de pizza. Selon une dernière étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 77% de nos aliments comportent au moins un ingrédient sucrant.
Alors dans les produits salés, une trace de sucre à un niveau faible de sucre peut permettre d'éviter une trop grande acidité, par exemple dans une ratatouille en conserve. Ça peut aussi permettre de mieux conserver un aliment, ou ça peut permettre de protéger un aliment de l'oxydation éventuelle, comme par exemple pour les saucissons.
Bonne nouvelle tout de même, selon la même étude de l'ANSES, depuis 10 ans, l'utilisation des ingrédients sucrants a baissé. Des changements nécessaires, car l'utilisation massive de cette poudre blanche a des effets délétères sur notre santé.
Quand on consomme trop de sucre, une des conséquences qu'on va avoir à long terme, hein, quand même, ça va être ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc en fait, c'est le stade prédiabétique, c'est-à-dire que les sujets vont être plus à risque de développer plus tard un diabète. Ensuite, un effet majeur qui a été montré pour la consommation excessive de fructose, ce sont toutes les maladies du foie. Et la conséquence de ça, ça va être aussi d'avoir plus de lipides dans le sang. Et à ce moment-là, on va augmenter aussi les risques cardiovasculaires.
Des risques pour la santé, surtout si l'on abuse du sucre. Et les Français en ont une consommation excessive. L'ANSES recommande aujourd'hui de ne pas dépasser 100 grammes de sucre par jour pour les adultes, 75 grammes pour les enfants de 8 à 12 ans et 60 grammes pour les plus petits. 20% des adultes dépassent cette limite, 60% des 8-12 ans et 3 quarts des 4-7 ans. La journaliste Danielle Gerkens a fait l'expérience de se passer totalement de sucre pendant un an. Au quotidien, elle reconnaît que c'est un travail à temps plein.
Les salades, il va falloir vérifier ce qu'il y a dans les sauces. Parce que généralement, c'est dans les sauces à salade qu'on se retrouve avec souvent du sucre. Parce que les sauces industrielles, ils mettent du sucre. Parce que ça, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus rond et ça se conserve plus longtemps.
Sa cure de sucre date d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, la journaliste en consomme à nouveau, mais avec modération. Car elle apprécie les bienfaits physiques et psychologiques.
Alors, les effets positifs, beaucoup moins de yo-yo de fatigue. Une humeur constante, une perte de poids à peu près 10%, une grosse perte de la cellulite aussi, normal, la cellulite c'est inflammatoire, beaucoup moins de crises d'allergie et de sinusite, c'est déjà pas mal.
Une des astuces pour baisser sa consommation, éviter de prendre un dessert. Plus facile à dire qu'à faire, pour 3 Français sur 4, il est important de finir un repas sur une note sucrée. La crêpe est aujourd'hui le dessert préféré des Français.
On était déjà en plein débat en regardant ce reportage, en se disant, est-ce qu'on peut s'en passer totalement de sucre ?
Non, on ne s'en passe pas, parce que les cellules nerveuses ne fonctionnent qu'au sucre, donc nous en avons besoin. Après, c'est la quantité, et le sucre qu'on mange n'est pas le sucre avec lequel, forcément, on a appris à vivre les millions d'années précédentes. Là, c'est du sucre pur, ça n'existe pas dans la nature. Et ce que Gérald disait tout à l'heure, c'est effectivement cette réaction de Maillard qui va caraméliser et qu'on fait lorsqu'on fait un steak sur la plancha, là, on aime bien, ça caramélise. Et on note aussi que ça perd un peu en flexibilité. Il se passe la même chose au niveau cellulaire. Et en fait, notons qu'une perte de flexibilité, c'est un vieillissement.
Il y a cette question qui nous est posée ce soir. Une consommation excessive de sucre augmente-t-elle le risque de cancer ?
Oui, clairement, par deux mécanismes. Un, ça augmente le poids, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un lien entre consommation de sucre, surpoids, obésité. Or, on sait que le surpoids et l'obésité, par des mécanismes inflammatoires, l'obésité, c'est une maladie inflammatoire chronique, ça augmente le risque de cancer. Et le deuxième mécanisme, c'est que quand on mange du sucre, il y a la glycémie qui va augmenter, le taux de sucre, et donc l'insuline, qui est l'hormone anti-sucre, qui va augmenter. Et on sait que l'insuline est ce qu'on appelle mitogène, c'est-à-dire qu'elle va aller induire une mutation génétique au niveau des cellules, au niveau de la mitose, la division cellulaire. Or, quand une cellule se divise trop, c'est ce qu'on appelle un cancer, c'est le mécanisme de base du cancer. Donc, très clairement, c'est un facteur de risque.
Consommation excessive, c'est au-delà de 50 grammes, comme on le disait tout à l'heure ?
Alors, encore une fois, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. Et puis, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est notre mode de vie, c'est à quel âge vous avez commencé, combien vous en prenez, quel type de sucre. Et puis, il n'y a pas un seul facteur de risque, c'est la combinaison des facteurs de risque.
On parlait tout à l'heure du cholestérol, Gérald Kirzek, est-ce qu'il y a du bon et du mauvais sucre comme il y avait du bon et du mauvais cholestérol ?
Alors oui, il y a du plus mauvais sucre. On sait que le sucre blanc raffiné est plus mauvais que d'autres types de sucre, le sucre qui est dans le miel. Mais tout ça reste quand même du sucre. Et puis même la notion de bon et de mauvais cholestérol, elle est très controversée actuellement. Donc là aussi, on avance. Ce qui est sûr, et en toxicologie comme en nutrition, c'est la dose qui fait le poison. Et c'est cette accumulation de doses qui va faire que c'est un poison. Le sucre, c'est vital. On en a besoin. On a besoin de protéines, on a besoin de lipides et on a besoin de glucides.
Le problème, c'est que dès le plus jeune âge, on voit bien les dangers que vous avez exprimés assez rapidement, mais très clairement sur la surconsommation de sucre. Mais nos enfants, tout petits, un bonbon, une récompense, c'est un bonbon. C'est pas une carotte crue ou un peu de fenouil.
Ça peut.
Ça marche pas. J'ai essayé, peut, je vous assure.
Mais du coup, en fait, moi, j'aime bien retourner quand même le problème. C'est que le problème, c'est pas la récompense donnée par les parents, mais du coup, comment les industriels conditionnent les enfants à recevoir cette récompense, cette récompense. Et on le voit énormément sur le marketing. Et ça, c'est quelque chose à Foodwatch contre lequel on lutte depuis longtemps. Oui. Ce marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, c'est extrêmement délétère pour leur santé. On a, je crois que c'est 17% des enfants qui sont en surpoids ou obèses. C'est beaucoup trop, en fait. C'est pas possible aujourd'hui.
Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent, les industriels?
Du coup, l'exemple le plus connu, ça c'est un bon rayon de
ça, c'est céréales, les céréales
qui est un bon exemple avec, par exemple, les mascottes sur les céréales, avec les céréales à hauteur des enfants, évidemment, dans les rayons pour qu'ils puissent les voir.
Et c'est mauvais pour la santé, les céréales?
Ça, c'est très, très sucré. Hein. Là, on est sur 21, 22 grammes de sucre par 100 grammes. On est sur des choses assez sucrées. Hein. Et très transformées. En plus, des sucres qui sont des sucres très transformés. On n'est pas sur du granola avec un peu de miel, entre guillemets.
Et la problématique, c'est la transversalité des choses. Là, on parle de manière verticale sur le trop de sucre, mais il faut voir aussi le contexte et notre mode de vie. On a une sédentarité acquise. On a tous les problèmes de pollution de l'air à côté, qui sont des facteurs de risque non pas additionnels, mais multiplicatifs, et qui vont véritablement agir sur toutes ces maladies non transmissibles qui sont les cancers, comme on disait tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires et toutes les maladies métaboliques. Aujourd'hui, c'est 74% des décès au niveau mondial sont dus à finalement nos comportements, notre alimentation et notre mode de vie qui est clairement aujourd'hui pathogène. On n'est plus dans un monde qui nous permet de vivre vieux et en bonne santé.
Je voudrais qu'on regarde l'histoire d'un best-seller absolument incroyable qui a été numéro 1 des ventes en France, en Grande-Bretagne, en Australie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Elle s'appelle Jessie Inchospé. Elle est surnommée la déesse du glucose. Et sur le sujet du sucre, elle a renversé la table.
Savez-vous que même si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez avoir des pics de glucose tous les jours? En 2018, une étude de l'université de Stanford révèle que 80% des gens qui n'ont pas de diabète ont des pics massifs de glucose causés par leur petit déjeuner, leurs céréales. Ces pics provoquent faim, fatigue, inflammation, vieillissement prématuré et problèmes hormonaux. Je vous propose 4 astuces. Un petit déjeuner salé, boire du vinaigre avant chaque repas, commencer les repas par des légumes et bouger son corps pendant 10 minutes après le repas.
3 sur 4.
Bon alors, 3 sur 4. Boire du vinaigre avant chaque repas, c'est...
Très controversé.
C'est sérieux. C'est un succès de librairie, c'est un phénomène. Mais est-ce que scientifiquement, c'est contesté ce que dit cette femme?
Alors, sur les 4 arguments qu'elle donne, globalement, le message est bon. Sur les 4 arguments, il y a juste le vinaigre de cidre qui est très... C'est plutôt du salé le matin. Ça, c'est bien pour éviter le pic de glycémie. Et qui dit pic de glycémie dit pic d'insuline et coup de fatigue derrière. Donc vous allez avoir
le sucre
ce
fatigue.
Coup de pompe. Oui, le sucre fatigue. Alors que c'est contre-intuitif là aussi, parce qu'on a toujours dit, tiens, prends une petite barre chocolatée si t'as un coup de barre. C'est peut-être une hypoglycémie. Mais vous savez que l'hypoglycémie chez les gens non diabétiques et qui ne sont pas traités, ça n'existe pas. Parce qu'on a un organisme et un corps qui est bien fait et qui est capable d'aller piocher dans ses réserves et de remonter tout seul la glycémie. Donc on peut faire un petit malaise, mais c'est pas une hypoglycémie. Donc oui, quand on mange trop de sucre rapide, un index glycémique rapide, l'insuline augmente et donc on a un coup de fatigue parce que ça redescend. Et quand elle dit de bouger, évidemment.
Oui, mais après,
encore une fois, c'est un best-seller et tant mieux.
Mais qu'est-ce qui est singulier dans ce qu'elle dit? C'est quoi? Ça s'appelle pas la glucose révolution. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, le titre, et peut-être la prise de conscience que pendant des années on a pensé que le sucre était un ami.
Peut-être mettre la lumière dessus justement, et c'est peut-être la face émergée de l'iceberg, parce que tout justement dans ces aliments ultra transformés, il y a le sucre, mais il y a tous ces conservateurs, il y a tout. En fait, il va falloir revoir véritablement tout ce qui sort des productions industrielles au biais de l'impact sanitaire qu'il y a derrière.
Il y a une autre question santé aussi de Jean-Pierre dans le Bas-Rhin. Est-ce que le sucre peut être à l'origine des AVC?
Ben oui, bien sûr.
Ah, aussi ?
Bien sûr, parce que le sucre égale maladie cardiovasculaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que vous mangez que du sucre, mais si vous avez du sucre, du surpoids, un peu d'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque majeur. Les maladies cardiovasculaires, les AVC, mais comme les infarctus, hein, c'est une artère qui se bouche, 80% sont évitables. Et c'est ça la bonne nouvelle.
Oui.
C'est finalement par notre mode de vie, on se les crée, mais on peut les éviter.
Comment on fait ? On veut bien lire les étiquettes. On a vu passer les mots. Vous nous avez cité tout à l'heure glucose, galactose, fructose, saccharose, lactose. Maltose, le miel, la purée de pommes. Comment est-ce qu'on peut, quand on fait ses courses, pas y passer trois quarts d'heure pour regarder les étiquettes ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, du coup, je vais aller sur en deux points. Le premier, je pense que la véritable révolution, elle ne va pas être du côté des consommateurs, elle doit être vraiment du côté des industriels.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas escroquerie sur la marchandise, que tout soit marqué ?
En vrai, qu'on sache, que ça soit transparent, mais aussi qu'ils arrêtent de mettre cette petite cuillère de sucre dans les haricots verts, dans les petits pois. En fait, il faut changer les pratiques des industriels, parce que ça, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la faute du consommateur s'il y a du sucre dans ses petits pois. En vrai, il ne peut rien faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très difficile même de faire dans sa journée, d'essayer de repérer où est-ce qu'on a mangé du sucre. Ouais. Ben, du coup, oui, j'ai mangé un bonbon. On sait qu'il y a du sucre. Mais du coup, dans vos petits pois, dans votre plat transformé, dans votre pain de mie, et du coup, là, on a un problème, mais c'est un problème de système, plus qu'un problème de consommateur. Et après, on a quand même le Nutri-Score sur les produits qui peut permettre aux consommateurs d'avoir une certaine vision en fait, de ce qu'il y a dans...
Et ça, on va rentrer dans le détail des politiques publiques. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs en matière d'information sur le sucre ? On va en parler dans un instant. Nicolas Bouzou, en regardant le reportage, vous me disiez le problème, c'est sans sucre ajouté. Toutes ces indications, c'est les sodas sans sucre, etc.
En fait, ça c'est vraiment une question, c'est un marketing qui est très habile, parce que sans sucre ajouté, en réalité, le consommateur entend... ça va,
c'est bon.
Et peut-être même qu'il entend sans sucre quelque part. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Or, ce qui est pas bon, c'est le sucre. Enfin, peu importe qu'il soit ajouté ou pas, en réalité. Donc, vous pouvez avoir un produit sans sucre ajouté, mais qui est un produit extrêmement sucré et donc qui est nocif. Mais en réalité, la difficulté de cette affaire-là, c'est que derrière l'industrie agroalimentaire, si elle met beaucoup de sucre, c'est pas par méchanceté. C'est parce que notre industrie agroalimentaire en France, en dehors des géants de l'agroalimentaire, mais elles ne gagnent pas énormément d'argent. Et le sucre, c'est pas cher. Ça permet de faire des productions pas chères. Dans un pays dans lequel il y a des problèmes de pouvoir d'achat, et on a bien vu ces dernières années en matière de consommation. Hein,
Juste, elle peut s'en passer, l'industrie alimentaire, elle peut s'en passer du sucre. Elle pourrait s'en passer si elle le décrétait.
La grande difficulté, c'est pas au coût actuel et donc pas au prix actuel. Donc si on met moins de... C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à dire, il y a un problème. Je suis le premier à dire... Je suis un libéral, etc. Mais il faut regarder le monde tel qu'il est. Nous avons une difficulté. Mais il faut bien comprendre que le sucre, ça permet d'avoir un goût beaucoup plus attractif pour le palais. Mmh. Donc ça permet de faire des grandes séries. Donc on fait des économies d'échelle. C'est un bon conservateur. C'est un conservateur qui coûte pas cher. Vous voyez ça rentre dans l'équation économique. Et donc on a cette difficulté aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, le premier des combats, vraiment, et peut-être le plus simple d'ailleurs, c'est l'information.
On va en parler avec
les Nutri-Score. Et c'est la raison pour laquelle, donc, pour répondre à votre question, sans sucre ajouté, je vais même vous dire, je trouve qu'on est à la limite de la malhonnêteté.
Carrément.
Ouais. Bah oui, parce que le message qui est entendu, c'est un message qui est un message bon pour la santé. Enfin, je parle sous le contrôle des médecins.
Le pire piège, et vous l'avez dit rapidement, c'est tout ce qui est soda, jus de fruits, etc. C'est là-dessus qu'on se fait, parce qu'il y a le côté un peu sain.
Jus de fruits, 5 fruits et légumes. Donc on se dit, ça rentre dans les 5 fruits et légumes, alors que pas du tout. Ouais. Donc c'est toutes ces habitudes qu'il faut changer. Le petit déjeuner, il faut que tu manges comme un roi le matin, etc. Pareil, c'est quelque chose qui est très battu en brèche. Si tu as envie de petit déjeuner, tu petit déjeunes. Si tu n'as pas envie de petit déjeuner, ne petit déjeune pas déjà. C'est le premier message. On mange trop et on mange trop sucré. Donc le matin, pas de petit déjeuner obligatoire. Un petit déjeuner, il vaut mieux prendre une orange et manger l'intégralité de l'orange, parce qu'on sait qu'avec la pulpe, ça va permettre d'apporter des fibres et que ça a un index glycémique plus bas. Ça veut dire que ça va moins faire monter le taux de sucre plutôt qu'un jus d'orange industriel qu'il faut absolument bannir de son petit déjeuner.
On est en train de faire cette révolution-là, y compris dans le domaine de la santé. Je veux dire, c'est pas uniquement cette personne, j'imagine, qui a ouvert les yeux des études scientifiques, en tout cas quand elle parle de sa révolution glucose. Est-ce que là, on est dans un point de bascule, ce que disait tout à l'heure en débutant cette émission, Nicolas Bougeot, il parlait de scandale sanitaire. Est-ce qu'on est dans ce moment-là où on est en train d'ouvrir les yeux sur l'ennemi invisible?
Ça fait déjà des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on a bien compris que le sucre, c'était quand même un ennemi de la santé. Les industriels, il faut quand même leur reconnaître, et on le voit, que les choses se sont un peu améliorées ces dernières années quand même. Il y a quand même une diminution liée aux politiques publiques d'ailleurs, liée à des taxes qui fonctionnent bien. En Angleterre, ça a fonctionné. Ça pourrait épargner 5000 enfants d'obésité, par exemple, le fait de moins manger de sucre. Après, l'échelle, c'est à l'échelle planétaire. Et quand on voit en Afrique, nous, on a une vraie prise de conscience, on peut se permettre de payer des produits un peu plus chers, etc. Mais dans les pays en voie de développement, c'est dramatique. Parce que non seulement la prévention ne va pas fonctionner, il y a une espèce de fierté de dire je consomme des produits un peu à l'occidental.
Donc là, avec des risques d'obésité.
Avec des risques d'obésité. Et on voit que le problème, c'est plus la malnutrition, mais c'est vraiment la malbouffe. Maintenant, c'est plus la sous-nutrition, mais la malbouffe. Et puis, avec un problème majeur, c'est que nous, quand on a un AVC, et le téléspectateur qui disait ça induit les AVC, on a des structures qui permettent de soigner l'AVC. Mais vous imaginez dans les pays en voie de développement où il n'y a même pas le système curatif.
Anne Sénéquier, sur
que
ce sujet-là.
Aujourd'hui, autour de ces maladies générées par toute cette alimentation, on a encore cette approche curative où on dit la médecine va pourvoir à cela, mais aujourd'hui, il faut véritablement se poser la question des causes et des déterminants et agir véritablement sur
la maladie. Il y a un déterminant social sur la malbouffe.
Exactement, mais alors on parlait des pays à revenus faibles et intermédiaires, mais ne serait-ce qu'en France, toutes les personnes n'ont pas les moyens d'avoir accès à des produits bio. Enfin, on parle du sucre, mais on va parler un peu des pesticides un petit peu plus tard. On a 70% des fruits et légumes qui ne sont pas bio, qui contiennent des pesticides. Donc, en fait, tout ça, finalement, nécessite de l'argent. Et on parlait de taxer, justement, les industries pathogènes. On a besoin, effectivement, de taxer ces industries, ces publicités qui doivent être interdites pour subventionner, finalement, un accès à la nourriture.
On va parler des politiques publiques, je vous promets. Si on reste sur les conséquences à très court terme, là, de la surconsommation de sucre, est-ce qu'en France, on a une surobésité? Je ne sais pas si ça existe. Est-ce qu'on constate des choses qui sont en train de s'installer dans des mauvais comportements alimentaires qui s'ancrent dans la société? Ou est-ce que, puisque vous disiez que cette prise de conscience était amorcée il y a plusieurs dizaines d'années, est-ce que c'est en train de bouger?
C'est en train de bouger. Disons que ça commence à diffuser un petit peu plus dans la société, mais encore une fois, c'est aussi confronté à un principe de réalité, c'est les moyens de pouvoir le faire. Et malgré tout, ce surpoids et cette obésité, aujourd'hui, ça prend de plus en plus le pas. C'est vrai au niveau européen. Alors, pour faire référence à des objectifs, on a le taux de décès prématuré lié à ces maladies non transmissibles, un objectif à 2030. Et cet objectif, il est à 153... Un taux de 153 pour 100 000 personnes. On a baissé de 20 points seulement depuis 2015, en fait.
Ce qui change, c'est en consultation, on le dit. Il n'y a pas un jour où mes collègues, on ne dit pas en consultation. Par exemple, pour des douleurs articulaires, les gens qui nous regardent et qui ont de l'arthrose, on sait que les douleurs articulaires, c'est lié l'arthrose à de l'inflammation. Si vous dites tout simplement, vous faites une espèce d'enquête alimentaire, vous dites, est-ce que vous rajoutez du sucre dans votre café? Ah bah oui, je rajoute du sucre dans mon café, docteur. Ou je prends ça
est-ce
au petit déjeuner,
etc.
Oui, je prends un petit jeu. Eh bien, le fait de diminuer le sucre, de diminuer aussi le gluten, on est en train d'avancer là-dessus. L'idée, c'est pas de supprimer, mais c'est d'éliminer ce qu'on peut assez facilement diminuer en termes de sucre surajouté. Ça diminue les douleurs articulaires. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dire très concrètement en consultation.
Est-ce qu'on dit remplacer le sucre dans le café par du faux sucre? Par l'aspartame, sirop d'agave, etc.
L'idée, c'est de déshabituer le cerveau à ce réflexe sucré. On sait que l'aspartame donne des risques de diabète aussi. Ça, c'est un truc qui est hallucinant. On pensait que l'aspartame était quelque chose qui ne donnait pas de risque de diabète ou qui ne donnait pas de risque inflammatoire. Eh bien, l'aspartame, est également mauvais. Donc, l'idée, c'est de déshabituer le cerveau, d'arriver vers des produits plus bruts, plus naturels. Et si vous déshabituez du sucre, il n'y a pas besoin d'aspartame dans votre café.
Vous voyez arriver des patients qui sont vraiment intoxiqués au sucre.
Ah bah oui, il y a des gens qui ont des habitudes, qui sont des habitudes, un mode de vie qui est un mode de vie qu'on dirait pas sain. Alors c'est facile de dire ça, c'est un peu moralisateur, mais globalement c'est un cercle vicieux.
Ce que j'essaie de savoir, c'est si c'est facile de se désintoxiquer, si c'est facile de changer ses habitudes et de manger moins de sucre.
Et on peut pas tout faire d'un coup, mais quand vous avez du surpoids, de l'hypertension artérielle, du diabète, etc., c'est souvent. Et moi je suis urgentiste à un moment où il y a un accident cardiaque, un accident vasculaire cérébral. Là il y a une prise de conscience.
Camille Dorieux, vous voulez ajouter quelque chose sur l'aspartame?
Oui, sur l'aspartame. Bon, l'aspartame ou les édulcorants, même, genre, globalement, on voit bien, c'est pas une réponse, hein. Genre, transformer le sucre par des édulcorants, alors ça peut être une réponse pour des personnes qui peuvent être très accro au sucre et qui auraient des problèmes de diabète. Mais en vrai, c'est un peu passé de carib en sida, quoi. Ouais. Genre, on se retrouve avec un risque possiblement cancérogène sur l'aspartame. Ce genre d'additif, c'est pas censé être dans les rayons. Encore une fois, là, on parle encore une fois du
produit. Comment ça, c'est pas censé être dans les rayons ? C'est dans les rayons ?
Mais ça devrait pas.
Pourquoi ?
Genre, d'où on autorise, dans les rayons d'un supermarché, d'avoir un produit qui est possiblement cancérigène ? Ça n'a rien à faire là. Ça doit être. Les pouvoirs publics sont censés nous protéger de ce type de risque. Ça s'appelle le principe de précaution. Mmh. Il est très mal mis en place.
Il y en a tout un tas. Il y en a tout un tas de produits qui sont cancérigènes.
Tout un tas. Exactement. Et bon. Mais en vrai, c'est ça. Un consommateur ne devrait pas se poser la question, est-ce que le produit que j'achète dans mon rayon
est
dangereux ou pas ?
Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Parce que vous posiez la question de l'obésité tout à l'heure. Oui. La prévalence de l'obésité, hein, elle a doublé en 30 ans. C'est à peu près 17% en France. Non, France. En France. Donc on reste un peu au-dessous d'autres pays parce qu'on a une alimentation diversifiée, etc. Mais ça a quand même progressé très vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité génère énormément de maladies chroniques et donc ça a un coût collectif pour nous, parce que l'obésité, c'est des lombalgies, c'est du diabète, ce sont des cancers. Et ce que je dis aux industriels de l'agroalimentaire, c'est vous vous plaignez des charges que vous payez à juste titre. Moi, je suis le premier à dire, mais les charges, c'est les coûts de la sécurité sociale.
Aussi.
Et donc, c'est notamment les maladies chroniques. Ouais. Donc, vous voyez que si on essaie de réfléchir de façon prospective, nos intérêts sont convergents.
On va poursuivre cette conversation. Juste, allez-y, un mot.
Non, je pense qu'il y a aussi dans les déterminants... qu'est-ce que le sucre aujourd'hui pour tout un chacun ? C'est un petit plaisir facile dans une vie compliquée et de plus en plus complexe à tous les niveaux. Donc l'alimentation, le sucre, le chocolat, tout ça, c'est quelque chose d'immédiat et effectivement...
C'est une satisfaction immédiate.
Oui, c'est un petit peu son problème. Ouais. C'est pour ça que c'est notre problème.
En tout cas, c'est un combat qui ne fait pas toujours la une de l'actualité et que Richard Ramos mène dans l'ombre à l'Assemblée nationale. Ce député MoDem du Loiret a grandi dans une famille de 4 enfants et il veut mettre l'alimentation au cœur de son combat politique. Il a lu naturellement l'étude du jour et il cible en premier lieu, vous allez voir, les lobbies de l'agro-industrie. Aubry Perrault, Stéphane Lopez et Nicolas Baudry-Dasson.
Derrière les murs de l'Assemblée nationale, Richard Ramos en a fait son combat, la malbouffe. Et le chemin est encore très long selon ce centriste.
Les lobbyistes ont gangréné notre démocratie. C'est-à-dire le lobbyiste du sucre, du gras et du sel sont partout pour essayer de nous foutre de la merde dans certains produits industriels. Aujourd'hui, on avait une loi qui devait être aujourd'hui en place. Au moment où on parle, a été retirée. Pourquoi ? Parce que les lobbyistes industriels ont fait retirer ce texte. J'allais dans un restaurant, j'avais un produit qui était industriel, j'avais un moelleux au chocolat qui n'était pas fait sur place. On aurait eu l'obligation de marquer « pas fait maison ». Les lobbyistes ont gagné. La puissance financière a gagné.
Si le député est en colère, c'est qu'il connaît bien le problème. Ce fils d'ouvrier a grandi au sein d'une fratrie de 4 enfants.
Quand j'allais chez mes copains, qui avaient plus de thunes que moi, je voyais bien qu'ils ne mangeaient pas la même chose que chez moi. Que moi, j'avais un mauvais fromage de merde dans mon frigo, à pas cher, et qu'eux, ils avaient été chez le fromager et qu'ils avaient des fromages un peu différents. Il faut empêcher que les plus pauvres soient les plus atteints. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la courbe de l'obésité suit la courbe de la pauvreté.
Pour cela, Richard Ramos a notamment voté le blocage des prix de première nécessité. Il est le seul dans la majorité présidentielle, lui, qui prône aussi une sécurité sociale de l'alimentation.
À tous ceux qui ont un numéro fiscal, on leur donne une carte bleue qui permet d'acheter, une carte bleue alimentaire, mais qui permet d'aller acheter, et qui permet, par exemple, on va donner 5 euros. Et derrière, à ceux qui ont le plus besoin, on va mettre plus d'argent, 30 euros par mois. Et on va, puisqu'il faut 200 euros pour manger, à quelqu'un qui est étudiant, il va faire l'aide aux devoirs. Et on va pouvoir implémenter sa carte jusqu'à 200 euros, sans impôts et sans charges sociales.
Aider les consommateurs et contraindre les industriels à plus de qualité.
Je pense que le président de la République a une volonté. Mais on dirait un pilote où les manettes ne répondent plus. Il faut imposer aux lobbyistes et à la haute administration de faire ce que dit le président de la République. Est-ce que vous croyez que c'est normal que aujourd'hui, alors que j'ai démontré que le nitrite dans la charcuterie ça tuait, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ANSES, lien de causalité entre nitrite dans la charcuterie et cancer colorectal. Au Parlement européen, on a interdit le nitrite pour les croquettes, pour chats et chiens. On les continue pour les humains. on devient dingo.
Autre sujet de divergence avec la majorité, le CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada.
On va aller chercher au Canada ce qu'on est capable de produire, nous. Mais ça va pas. Il faut faire preuve d'un protectionnisme français et européen. On se rachera peut-être avec nos alliés dans la famille, on est des fois pas d'accord. D'ailleurs, vous avez vu, on se réconcilie souvent pendant le repas du dimanche. Donc on se réconciliera avec nos amis à table, mais avec des produits français.
Et pour soigner notre alimentation, il ne faut pas oublier ceux qui la produisent, dit-il.
Si demain, on ne renouvelle pas les agriculteurs, nous dépendrons de M. Poutine. Nous dépendrons de l'étranger pour manger. Et cette souveraineté alimentaire, elle dépend de notre agriculture. Et si on n'est pas en capacité que la transmission agricole de génération en génération se fasse, alors demain, nous ne pourrons plus avoir l'autonomie alimentaire française. C'est une catastrophe. On dépendra des étrangers pour manger.
Avant de partir, Richard Ramos donne un dernier conseil.
On a dans notre poche une petite carte bleue, et je pense que cette carte bleue-là, elle est plus puissante que le bulletin de vote. Et donc, je pense qu'on définit une société à travers ça.
On a une carte bleue, c'est aux consommateurs qu'il s'adresse. On va revenir hein, sur ce qui est dit pendant qui vous a fait réagir les uns les autres. Mais cette question de Nicolas dans le Bas-Rhin, pour la cigarette, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Pourquoi n'y en a-t-il pas pour le sucre ?
Oui, c'est vrai. Alors, il y en a indirectement, pas ciblé sur le sucre, hein, les fameux Manger Bouger. D'ailleurs, c'est un site qui est remarquablement bien fait. Mangerbouger.fr, avec une fabrique de menus, avec plein de conseils en fonction. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de spot de publicité. Sur le tabac, ça a été très anxiogène aussi. On a essayé de faire peur aux gens, etc. C'est vrai que le sucre, il n'y a pas eu ça. En tout cas, ça n'a pas été ciblé. Ça l'a été beaucoup plus sur le cholestérol à l'époque. Mais l'assurance maladie, avec les industriels, je pense qu'il ne faut pas les exclure. Les industriels devraient pouvoir faire des campagnes de sensibilisation. Comment mieux consommer. L'idée, encore une fois, c'est pas de bannir complètement, mais c'est de mieux consommer, moins et mieux.
Allez-y.
C'est très bien ces campagnes, hein. C'est forcément bien. Ce qu'on voit néanmoins, c'est qu'elles ont une limite majeure, c'est qu'elles n'atteignent pas exactement leur cible. Si je prends la cigarette, par exemple, vous avez encore à peu près un quart de nos concitoyens qui fument, donc c'est beaucoup. Si vous prenez les demandeurs d'emploi, c'est quasiment le double. À peu près 45%, vous voyez. En fait, tous ces sujets de cigarettes, de malnutrition sont très liés aux revenus. C'est compliqué à dire, hein, parce qu'évidemment, on ne veut pas stigmatiser, mais il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont.
Et c'est pareil pour l'alimentation.
C'est exactement pareil pour l'alimentation. Et donc, en fait, d'ailleurs, quand on fait... Moi, évidemment, je pousse beaucoup à ces campagnes, c'est forcément bien, mais il faut quand même bien avoir en tête qu'un de leurs effets, c'est que ça augmente les inégalités, en réalité. Pourquoi ? Parce que des gens, au fond... Je caricature un peu, mais ceux qui en ont le moins besoin vont être les plus réceptifs à ce type de message. Et on voit que ce sont un peu ceux qui font tout. C'est-à-dire que les non-fumeurs mangent moins de sucre et ils font du sport.
Ouais,
très schématiquement. Les gens qui ont de plus faibles revenus, qui ont les métiers les plus difficiles, bah en effet, ils fument, ils mangent plus de sucre. Cette question du plaisir immédiat, elle est absolument centrale. Et ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique.
Anne Sénéquier.
Après, par rapport au tabac, en fait, ça fait depuis bien plus longtemps que c'est un problème. Les industries du tabac, depuis 1920, font du marketing pathogène autour de ça. Et au niveau international, l'OMS a porté justement une commission et un règlement sanitaire autour de l'industrie du tabac en général.
Ce n'est pas du tout le cas pour le sucre. Hein.
Ce n'est pas, absolument pas le cas pour le sucre. Et il faut le dire, tout à l'heure, on voyait dans l'analyse le rapport d'aujourd'hui en disant qu'il y avait moins de sucre. Il y a une baisse des sucres, des éléments sucrants, soyons clairs, sur les boissons sucrées. Mais en fait, il y a une baisse des éléments sucrants. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de la quantité de sucre dans ces boissons sucrées. Donc il n'y a aucun seuil minimum, maximum sur le sucre dans l'industrie agroalimentaire. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est véritablement un problème.
Et qu'est-ce qu'il faudrait limiter le nombre
falloir, de... À un moment donné, oui, il faut véritablement prendre à bras le corps la situation parce que ça va impacter. On n'a souvent pas voulu toucher justement à l'industrie à travers aussi un appui des lobbies parce que c'est de l'argent qui rentre, c'est le PIB et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va aujourd'hui mettre en péril ce PIB ? C'est les coûts de santé et l'incapacité de la population à être actif, en fait.
Est-ce que ça a du sens de faire la comparaison, pardon, hein, avec l'industrie du tabac. Là, on parle du sucre. Quand je mange une pomme...
C'est pire, ça touche encore plus de monde.
Comment ça ? Quand je mange une pomme, on va me dire c'est bien, c'est bon pour la santé, mais il y a du sucre. On peut pas...
C'est
pas exactement la même logique.
Non, mais c'est un sucre naturel qui n'est pas justement plus... sur du fructose qui va déclencher cette fameuse réaction de Maillard, qui est aussi accompagnée de fibres et d'autres éléments minéraux qui vont permettre finalement à se dispatcher par tous les éléments dont a besoin le corps humain. La problématique, c'est le sucre pur et la quantité énorme dans laquelle finalement toute notre alimentation baigne et au final dans notre cœur baigne. Et la problématique, excusez-moi, je finis sur ça, c'est la latence avec laquelle le corps va réagir. Vous prenez du sucre aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, c'est pas tant le problème. Mais finalement, c'est cette récurrence, cette fréquence et finalement cette latence du corps humain pour dire attention, là il y a un problème, ça met souvent 10, 20, 25 ans.
C'est un poison lent.
Donc oui, et le temps finalement que se dépasse la problématique, on ne peut plus être que dans le curatif.
Il a parlé des lobbies, Camille Doriot. Je ne sais pas sur quoi vous vouliez intervenir, mais ce serait intéressant qu'on y vienne aussi sur ce sujet-là.
On y viendra. Le parallèle avec la cigarette est toujours intéressant parce qu'on sait comment les cigarettiers ont lutté corps et âme pour éviter toute réglementation autour des cigarettes, que ce soit dans la publicité. On voit la même chose qui va avec ceux qui font de la malbouffe. Ils luttent contre le Nutri-Score. Ils luttent contre l'information du consommateur. Ils luttent contre l'interdiction de la publicité qui cible les enfants. Et du coup, il y a vraiment un lobby qui essaie de préserver son activité principale, qui est vendre du sucre très cher. Parce qu'en fait, c'est pas très cher à acheter.
Parce que c'est pas très cher, c'est ce que vous disiez.
Acheter au début, mais on peut très bien valoriser la suite. Et du coup, c'est quand même assez important. Le sucre, moi, je trouve qu'il est très systématique du système alimentaire dans lequel on est, où en fait, on a des industriels qui sèment la précarité chez les agriculteurs, qui sèment la précarité alimentaire aussi à l'autre bout de la chaîne et qui en plus détruisent un peu la planète en passant. Et du coup, le sucre, c'est vraiment quelque chose au milieu là qui est un très bon exemple.
Vous levez le doigt, allez-y.
Oui, parce qu'il y a un truc qui m'a fait hérisser les yeux l'année dernière, c'est justement pour répondre à cette problématique du diabète et du surpoids, le chauvinisme qu'il y a eu lorsque le laboratoire Novo Nordisk s'est installé à Chartres pour investir 2,1 milliards d'euros dans son usine. Et qu'est-ce qu'il va fabriquer ? Des antidiabétiques et des coupes. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on répond à la problématique par le côté médicamenteux et curatif et on ne se pose pas la question de la prévention. Quand la semaine dernière, il était question d'interdire la publicité sur la fast fashion parce que ça détruit le monde, il serait temps d'interdire la fast food, la publicité sur les fast food et les aliments ultra transformés parce que ça nous détruit, nous.
Un mot sur les lobbies, sur au fond un système qui est installé, qui consomme du sucre, comme vous l'avez très bien expliqué au début de l'émission, Nicolas Bouzou, parce que c'est pas cher à acheter. On a d'ailleurs le cours du sucre qui est en cours, en fait, qui est très bas, donc c'est bien à la revente. Et il y a ce phénomène addictif avec le consommateur qui en redemande. Qu'est-ce qui pourrait les contraindre à changer, les industriels ?
Alors, il peut y avoir des mesures, en effet, d'ordre réglementaire ou d'ordre fiscal. Très honnêtement...
Vous n'y croyez pas ?
Non, mais surtout, je ne suis pas sûr, on pourrait rentrer dans les détails, mais que ça marche très bien, les taxes nutritionnelles, on voit que en réalité, c'est très compliqué et ça ne marche pas très bien. Mais surtout, les lobbies... Attendez, enfin, on va se dire les choses franchement. Oui. Je travaille, moi, pour des entreprises de l'agroalimentaire, donc je connais bien ça, mais ce que je leur dis, c'est que ce n'est pas leur intérêt à Londres, c'est que c'est une erreur de raisonnement économique. C'est-à-dire que, de toute façon, il faudra aller vers cette diminution drastique de ce que contiennent nos aliments en matière de sucre. Et donc, si on essaie de se projeter
pourquoi
à moyen terme...
Pourquoi il faudra
terme,
aller vers ce changement drastique ? Parce que les consommateurs vont le demander ? Il va y avoir un problème sanitaire ?
Alors, voilà, exactement. Mais le problème sanitaire, il est déjà là et il va croître. Et donc, de toute façon, mais c'est très symptomatique que votre émission, qu'une émission comme la vôtre, qui est regardée par des millions de personnes, en fait, vous fassiez ce sujet qui n'est pas un sujet d'actualité ultra brûlante. C'est parce que vous avez identifié le fait que ça commençait à devenir un sujet qui est très important pour nos concitoyens. Et donc, les gens vont le voir. Et donc, je suis absolument persuadé que les industriels qui font de la recherche et développement pour développer des aliments avec moins de sucre, ce sont ceux qui réussiront économiquement demain.
Ils en ont déjà conscience, c'est ça que vous dites. Ils attendent le moment où ils seront obligés de le faire.
Ah, comme tout va dans la vie.
Juste une question. Oui,
je me souviens juste d'une anecdote, pareil, un courrier qui avait été dévoilé de Nestlé, qui, dans un document interne, disait très clairement 60% des produits que nous fabriquons ne sont pas bons pour la santé. Voilà, ils le savent.
Il
y a cette conscience, elle est claire, nette et
précise. C'était dans un documentaire ? C'était dans un document officiel ?
Oui, c'était ça. C'était un document interne qui a fuité.
Le Nutri-Score. On entendait à la fin de cette interview, et ça vous a fait réagir d'ailleurs les uns les autres, ce député Richard Ramos qui disait... On a tous une carte bleue, c'est à nous aussi de faire les bons choix. On est les propres acteurs de tout ça. Il y a le Nutri-Score. Vous disiez tout à l'heure, il y a une grosse pression sur le Nutri-Score. Juste cette phrase. phrase que j'ai découverte en préparant cette émission, du nutritionniste et créateur du Nutri-Score qui dit « Je suis confronté à de nombreuses insultes et menaces de mort en décembre 2022 ». Il racontait ça dans 60 millions de consommateurs.
Oui, c'est Serge Ericberg qui a promu le Nutri-Score. J'allais dire, c'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien, avec des étiquettes qu'on ne peut pas décrypter. Donc le Nutri-Score, ça a été une avancée. Le Nutri-Score d'aujourd'hui n'est pas le Nutri-Score d'hier, parce que les critères ont été affinés, notamment l'ultra-transformation, parce qu'avant, vous aviez des pizzas qui étaient classées finalement A ou B. Alors la maman qui faisait, ou papa qui faisait les courses disait, ah bah c'est super, c'est A ou B, c'est couleur verte, donc c'est un bon aliment, alors que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc là, c'est un peu déclassé.
On prend en compte le niveau de sucre, la transformation,
il y a plein de critères, donc on améliore les choses. Après, je pense qu'il faut même aller plus loin, et dans les mesures qu'il faudrait prendre, je pense qu'il faudrait accompagner les gens, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de compréhension des étiquettes, des couleurs, des lettres, des chiffres. On est dans une culture du chiffre, mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans une culture du chiffre et qui ne comprennent pas forcément ces éléments-là. Et je pense que dans les milieux les plus défavorisés ou dans des quartiers les plus défavorisés, il faut accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il faut mettre des coachs nutritionnels. Moi, je serais ministre de la Santé, je mettrais des coachs nutritionnels à l'entrée des supermarchés, peut-être en partenariat avec l'industrie d'ailleurs, ou en tout cas payer avec une partie de taxes.
L'industrie, ils ne vont pas leur dire de ne pas acheter des céréales pour
mettre
sucre.
Peut-être consommer différemment, ou alors si on met une taxe en place, qui fonctionne quand même les taxes. En Angleterre, il y a eu une efficacité, on a vu quand même que ça a diminué la consommation et diminué les taux d'obésité, ça permettrait de payer ces coachs nutritionnels qui accompagneraient les gens et qui permettraient de dire, ben voilà, on va remplir le caddie ensemble. Et ça, c'est important, ça permettrait de le décrypter, ce fameux Nutri-Score.
Le sujet de la consommation aujourd'hui et de la carte bleue, c'est le prix. On est à peine sorti de la crise de l'inflation. La question du coût de ces produits transformés et du coût de l'alimentation est la préoccupation majeure des Français.
Oui, mais là, si vous voulez, où il peut y avoir des effets économiques positifs dans ce qu'on est en train de raconter, c'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est inciter les consommateurs à changer un peu d'alimentation, et ça va bénéficier à d'autres filières, et notamment à nos filières agricoles. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret, les œufs au petit déjeuner. Pendant longtemps, on a dit les œufs, c'est mauvais pour le cholestérol, etc. Je parle sous votre contrôle. Je crois comprendre que les études les plus récentes montrent que ça a un rôle absolument marginal dans le cholestérol. En revanche, on sait qu'il y a plein de protéines, etc. Et donc, en fait, c'est un aliment, l'œuf, qui est très bon pour la santé et qui est bien meilleur, en réalité, que les aliments sucrés qu'on mange au petit déjeuner. Coup de chance, on a énormément d'éleveurs en France. Oui. Et la filière œuf est une filière très importante.
Et c'est pas très cher comme protéine par rapport à la viande ou au poisson.
Exactement. Et puis l'œuf, en plus, c'est très intéressant du point de vue, parce que vous pouvez faire plein de choses différentes avec des œufs, vous voyez. Et donc, là, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est très bon pour les agriculteurs français, en particulier pour les éleveurs français qui, justement, ont des problèmes de revenus en ce moment.
On y vient à l'agriculture, vous disiez acheter local, brut et court.
Circuit court, plutôt que d'avoir des choses qui viennent de l'autre bout, comme disait le député, de l'autre bout de la planète. Et brut, c'est-à-dire le moins de transformation. Quand vous avez dans votre assiette quelque chose où vous ne savez plus quel est le produit d'origine, poisson pané, par exemple, poisson pané, c'est bourré de sucre aussi, c'est bourré
de
sel aussi.
C'est marqué de l'Alaska.
Et ça n'a, à part sur le packaging où là, il y a le poisson, quand vous regardez dans votre assiette, ça ne ressemble pas à un poisson.
Il y a du sucre dans le poisson pané.
Bien sûr,
il y a du sucre dans le poisson pané.
Un point qui me semble excessivement important dans ce que disait le député Ramos sur l'histoire de la carte bleue. Alors, on en a tous une, mais on n'a pas tous le même compte en banque derrière.
Hein, il le sait, c'est ce qu'il dit aussi.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité. Désolé, je remets toujours la responsabilité sur les industriels et les distributeurs. C'est que quand on regarde où sont faites les marges dans les rayons, en fait, un produit d'appel, ça va être un coca qui va faire que le consommateur va venir, d'accord, il va comparer les prix. Et où est-ce qu'on va récupérer ces marges? Et bien là, on commence à récupérer des marges sur les fruits et légumes, sur les produits les plus sains qu'on peut trouver. Ce qu'on regarde, quand on regarde les chiffres...
Les marges, c'est davantage sur les produits les plus simples que sur les produits transformés pour les industriels.
Par exemple, on a regardé les chiffres officiels de l'Observatoire du prix et des marges. Et par exemple, le rayon là où on fait le plus de bénéfices du côté des supermarchés, c'est plutôt le rayon charcuterie. Et celui qui est le rayon qui va faire énormément de, qui va faire un peu de déficit, c'est la pâtisserie. On est prêt à perdre de l'argent sur de la pâtisserie, mais par contre là on fait le plus de bénéfices, c'est sur les fruits et légumes. Et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'il faut renverser. Il y a un moment il faut renverser le jeu dans les supermarchés.
Mais ça c'est pas les industriels, c'est la grande distribution.
Là c'est la distribution. Là plutôt on parle de la distribution. La distribution a une responsabilité de s'assurer que les produits les plus sains soient les plus accessibles dans les rayons. Parce qu'en fait on parle vraiment de problèmes de des gens qui ne peuvent pas acheter de fruits et légumes parce qu'ils n'ont juste pas assez d'argent, en fait.
Là, il y a eu les campagnes 5 fruits et légumes par jour. Ça a plutôt bien fonctionné. C'était pas contre le sucre, c'était pour le manger sain, contre les produits transformés.
Ah, complètement. Mais d'ailleurs, en France, parce qu'on se critique et on a raison de le faire, hein, c'est très utile. Non, mais,
on a raison de le faire.
Non, mais en matière d'offres alimentaires, on le voit quand on voyage, hein, on est quand même très très bien loti en France, y compris, je voudrais le dire, parce que j'entends tout ce qui est dit, mais en matière d'information aux consommateurs, aller dans un pays étranger, en Angleterre, aux États-Unis, et essayer de comprendre. Ce que j'essaie, dès que je voyage, je vais au supermarché. J'essaie de comprendre.
Non, mais, c'est une passion.
Oui, je regarde la composition, mais je ne.
Mais pourquoi vous parlez des États-Unis, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a différent par rapport au supermarché?
Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans les aliments. C'est absolument incompréhensible.
Ils n'ont pas les mêmes contraintes que les industriels français
sur l'information. Les industriels français, alors il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, mais enfin, sur tous les aliments, je vois quand même pour 100 grammes, voilà ce que j'ai. Ouais. Donc peut-être que. Mais sans être compétent, j'arrive quand même à me faire une idée de la teneur en sucre. Je sais bien que 3 grammes et 20 grammes, ce n'est pas la même chose. Donc c'est quand même une information qui est intéressante. Dans la plupart des pays étrangers, vous n'avez pas du tout cette information. Ouais. Donc vous ne savez pas. Vous ne savez pas que dans un plat très américain, les ribs, par exemple, donc les, voilà, mais vous avez 20 grammes de sucre. Donc c'est complètement dingue.
Cette information, elle n'est pas accompagnée parce que malgré tout, manger 5 fruits et légumes par jour, elle est où? Vous le trouvez sur une publicité pour le McDo, pour Kinder Bueno et ainsi de suite. Donc en fait, on va donner la responsabilité.
On ne va pas interdire la publicité pour les McDo.
Bah, peut-être bien. Bah, pourquoi pas.
Si.
Pourquoi pas. Absolument.
D'accord.
Il faudrait. Franchement, il faudrait.
Il faudrait interdire la publicité pour la nourriture qui est...
Pour ce qui devient pathogène, qu'on soit bien d'accord. En fait, il y a eu un journaliste qui a mangé pendant une année entière que du McDo, son bilan de santé au bout d'un an.
On va éviter de citer des marques toutes les 3 minutes.
Non, mais il est là le problème, c'est-à-dire que manger une fois au fast-food par quinzaine, c'est pas très grave, au contraire, c'est un petit plaisir. Encore une fois, en nutrition, c'est vraiment la dose qui va faire le poison. Et on peut pas interdire, à moins, à ce moment-là, on change de société, mais on peut pas interdire complètement d'avoir une société où on va interdire tel fast-food, tel truc, et vous allez manger que du haricot vert ou de la salade. En revanche, éduquer les gens et les accompagner.
Ouais. Et il y avait cette question d'Olivier en Ille-et-Vilaine, mais il faut que j'avance sur le troisième reportage, mais je vous la pose quand même. L'État ne ferait-il pas des économies s'il aidait les Français à mieux manger? Je pense que la réponse est oui. L'ennemi était invisible et il a fait basculer la vie de Sabine et de sa famille. Elle était enceinte lorsqu'elle traitait au désherbant le manège de ses chevaux. Son fils Théo est né avec une malformation pour la première fois au monde. Le lien a été établi entre ces malformations et les herbicides qu'elle avait utilisés alors. Romain Besnénou, Marion Devauchel et Christophe Roquet.
Leur maison a tout d'un petit coin de paradis. L'espace, la nature, la campagne.
Et alors t'as tout. Ah, c'est la fête.
C'est pourtant là, sur ce terrain aujourd'hui recouvert d'herbes et de fleurs, que la vie de Sabine et de sa famille a basculé.
À l'époque, il y a 15 ans, c'était en fait un grand rectangle en sable dans lequel on montait à cheval. C'est à cet endroit que je passais chaque année, en général une fois en début d'été, une fois en milieu d'été, une fois en fin d'été, un désherbant à base de glyphosate.
En août 2006, lorsque Sabine Grataloup pulvérise son désherbant, elle ne sait pas qu'elle est enceinte de quelques semaines. Son fils Théo naîtra l'année d'après avec de graves malformations, notamment au larynx, qui lui coûteront presque la vie.
Bon, toi t'es prêt pour ton truc de mercredi, là?
Ouais.
Ouais, même pas peur?
Non, ça va.
Oh, t'aurais pu te raser, hein. Voilà. On a découvert les malformations de Théo à sa naissance. Ça n'avait pas été détecté avant. Et donc, comme c'est à la fois son système digestif et son système respiratoire communiqué, et il n'était pas viable. Hein, donc, il a dû être opéré en urgence pour séparer le système digestif et respiratoire. Et il a passé 6 mois en réanimation.
Bah, je pense que c'est clair que je ne peux pas avoir qu'une fille normale, même si j'essaye. Et que tout mon entourage essaye que j'en ai une le plus normale possible. C'est certain que je ne pourrai jamais être aussi normal que n'importe quelle autre personne de mon âge.
Le combat de Théo et sa mère est historique. En octobre dernier, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu le lien entre le glyphosate et ses malformations prénatales. Une première mondiale. Mais le chemin a été long. À la fin des années 2000, il n'existe pas encore d'enquête sur les dangers que représente le glyphosate, abondamment utilisé dans l'agriculture. Jusqu'à la parution d'une étude argentine démontrant l'effet toxique de l'herbicide sur les embryons. Sabine alerte à plusieurs reprises, mais s'attaque à plus fort qu'elle.
En 2010, quand on a eu ces études, on a réécrit au président de la République, à l'époque Nicolas Sarkozy, pour lui dire, bon bah, cherchez plus, on a les études qu'on vous demandait l'an dernier, elles ont été faites en Argentine, maintenant c'est sûr, donc il faut prendre des décisions et protéger la population. Et il ne s'est rien passé, rien du tout. Ce qui a vraiment commencé à déclencher une prise de conscience dans l'opinion publique, ça a été essentiellement les Monsanto Papers.
Des documents publiés à l'instant suggèrent que Monsanto aurait menti sur le risque de cancer. On appelle cette affaire les Monsanto Papers.
Ces documents qui dévoilent des emails internes soulèvent de grandes inquiétudes.
En 2017, les Monsanto Papers révèlent que le groupe qui fabrique le glyphosate non seulement connaissait les risques pour la santé humaine, mais aurait tout fait pour les étouffer.
Ça, c'est le produit que j'utilisais à l'époque. Ce bidon, c'est une pièce à conviction, une pièce à notre dossier judiciaire dans le cadre du procès qu'on a intenté contre Bayer Monsanto, en fait. J'ai toujours beaucoup de mal à le prendre dans les mains. C'est toujours beaucoup de colère, en fait, et de dégoût.
Colère aussi après que la Commission européenne a prolongé pour 10 ans l'autorisation du glyphosate grâce notamment à l'abstention de la France. La promesse d'Emmanuel Macron d'en finir avec ce pesticide semble loin.
Les victimes des pesticides sont niées, invisibilisées, voire même culpabilisées. Voilà, tous les prétextes sont bons pourvu que le business puisse continuer, en fait.
Des pulvérisations à l'assiette. Des résidus de pesticides subsistent dans les aliments de notre quotidien, comme dans 70% des fruits, d'après plusieurs études.
Alors évidemment, ce reportage est évidemment très rude.
Bien sûr. Non, très, très rude, et c'est bien qu'il y ait un combat juridique et qu'il y ait une causalité, ou j'allais dire une suspicion, et qu'il y ait une indemnisation. Parce que tout le problème, c'est qu'on cherche des études, toutes dans le même sens, de causalité, mais j'allais dire, même s'il n'y a pas la causalité qui est encore démontrée, le fait qu'il y ait un lien, ou le fait qu'il y ait déjà une précaution ou une suspicion, il y a le principe de précaution qui doit s'adapter. Et on l'a vu, bah, les femmes enceintes, les plus fragiles, les enfants, il doit vraiment y avoir cet esprit de précaution qui doit s'appliquer.
Cette question, le sucre, les graisses, les pesticides, pour ajouter les perturbateurs endocriniens, que peut-on encore mettre dans son assiette ?
Ce qu'on fait maison avec des aliments bio.
Tout un peu. Plein de choses. Du poisson acheté chez le poissonnier, des légumes qu'on est allé acheter chez le maraîcher ou même au supermarché. Mmh. Et puis, on peut mettre des œufs, on en parlait tout à l'heure. Un peu de viande, pas trop, parce que là aussi, nos téléspectateurs, téléspectatrices vont dire, mais c'est cancérigène. Oui, c'est cancérigène. C'est classé, la viande rouge, par l'OMS. Mais encore une fois, c'est la quantité. Rien n'empêche de manger 2-3 fois par semaine de la viande rouge sans aucun problème. Donc, l'idée, c'est vraiment la variété, avoir une assiette qui est coloré, qui suit les saisons, et puis de temps en temps, on peut se faire plaisir. On peut manger un peu de chocolat, une pâtisserie, un peu de pain, mais il faut diminuer et plutôt privilégier des pains complets qu'on va acheter chez son boulanger plutôt que des baguettes industrielles.
Un des points importants, à mon avis, c'est que le consommateur ait l'information et qu'il soit capable de choisir ce qu'il veut mettre dans son assiette.
Sur la question des pesticides, c'est compliqué.
Et du coup, c'est bien le problème. Mais c'est du coup, c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'en fait, il y a une question d'alimentation choisie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent leur alimentation et les impacts sanitaires qu'elles ont sur leur santé.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le reportage qu'on vient de voir ?
Oui, parce que en fait, ce qui est avéré, c'est que les pesticides ont des effets délétères sur la santé quand on est directement en contact avec eux. C'est montré notamment chez les agriculteurs. Mais en ce qui concerne les fruits, par exemple, en Europe, les taux de pesticides sont extrêmement bas et il est très important de ne pas dire aux gens, de ne pas les inciter à ne pas manger de fruits et légumes pour cette raison-là. C'est-à-dire que manger des fruits et légumes, ça reste très bon et donc c'est très important.
Voilà, même si c'est pas bio. Il faut les éplucher. Même si
c'est... faut les laver, etc. C'est bon. Ouais.
C'est dit.
Ouais, bah oui.
Bon, allez, on revient à vos questions. Bah merci pour cette question. Je me suis posée dès qu'on a débuté cette émission. Pourquoi mettre du sucre dans les plats préparés, salés ou la charcuterie ?
Voilà, c'est pour des raisons économiques. C'est parce que c'est bon pour le goût, parce que c'est un bon conservateur, parce que c'est un peu addictif, parce que c'est industrialisé, parce que c'est pas cher.
C'est pas cher, voilà. Faut le dire quand même.
Et vous me disiez pendant le reportage tout à l'heure, et on l'a peut-être pas suffisamment dit pendant cette émission, on produit beaucoup de sucre en France.
Oui, c'est un lobby très puissant, le sucre en France. Moi, je me souviens d'une campagne qu'on avait épinglée à Foodwatch il y a quelques années. Je sors de chez moi et je tombe sur un panneau. Le sucre est une plante. Oui. C'est incroyable, une pub comme ça, oui. Genre, comme si en fait, bah, presque le sucre est un fruit et légume, entre guillemets, à manger. Oui. En plein milieu, évidemment, des problèmes sur les pesticides aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a eu tout un ensemble de pesticides qui sont utilisés pour le sucre. C'est pour ça que je disais qu'il il cristallise énormément de choses, le sucre, dans
notre. Et la France est le premier pays producteur de sucre en Europe.
À partir de la betterave, qui est une plante.
C'est ça. Exactement. Allez, Jean, on revient à le sucre est une plante. Jean dans l'Essonne, je n'ajoute jamais de sucre dans mon alimentation et je découvre que j'en consomme en grande quantité sans m'en rendre compte. C'est ça le problème.
La raison de plus pour ne pas en rajouter dans son café, pour ne pas en rajouter.
Mais il n'en rajoute pas.
Oui, mais on en consomme. Et j'allais dire, il faut tenter de faire la chasse au sucre caché. Mais encore une fois, on ne peut pas, et ce n'est pas l'objectif, d'être à zéro sucre. Le sucre, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans sucre. En revanche, du sucre transformé, du sucre raffiné, du sucre rajouté, vous utilisez tous les mots que vous voulez, ça, on n'en a pas besoin. En revanche, donc, quand vous allez manger du pain complet, il y aura du sucre, ce n'est pas grave. Vous buvez du lait, il y a du lactose. Lactose, ose à la fin. Le dur sucre aussi, et c'est suffisant pour vivre avec, et c'est pas ça qui va vous tuer. Ce qui va vous tuer, c'est tout ce qu'on rajoute en plus. Donc c'est un très bon réflexe que la personne a.
Quand vous faites vos courses, qu'est-ce qui vous agace le plus justement dans les produits, où vous dites ça c'est quand même pas possible, pour les enfants,
tout le marketing, c'est-à-dire tout le packaging, tout le marketing qui va tromper, on est limite sur de la publicité mensongère, les sans sucre ajoutés, bien sûr, donc c'est ça qui est énervant. Ce qui est énervant aussi, c'est pas avoir tous le même niveau de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité assez profonde en fonction des gens qui sont, qui connaissent, qui savent ce qu'il y a dedans, etc., et puis des gens qui vont prendre pour argent comptant ce qu'on leur dit. C'est là où je dis qu'il faut vraiment éduquer et accompagner.
Une autre question, quelles sont les maladies provoquées par une consommation excessive de sucre ?
Maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, les cancers, tout est histoire de temporalité. Donc,
les AVC, vous nous avez dit tout à l'heure.
Les AVC, l'intestin irritable, les gens qui ont l'intestin irritable, c'est pareil, le sucre, on sait que ça va jouer sur le microbiote, c'est ces fameuses bactéries bonnes ou mauvaises, donc le sucre, on sait que ça sélectionne plutôt les mauvaises bactéries, l'arthrose dont je parlais, donc tout ça lié, mais c'est pas un seul facteur, encore une fois, c'est plurifactoriel.
Si on se met au nos glucoses, si on se met au sans sucre total et qu'on a l'habitude d'en consommer, on va avoir un coup de fatigue.
Alors au début, vous allez avoir un coup de... Ça va vous manquer, vous allez avoir un vrai manque, et puis après, ça va vous passer, vous aurez moins de coups de pompe, vous aurez moins de douleurs articulaires, vous serez plus concentré, vous dormirez mieux aussi, surtout si vous arrêtez la cigarette, si vous fumez, et qu'en plus vous arrêtez l'alcool. Non mais l'idée, c'est pas d'avoir une vie monacale. Bien sûr, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. C'est pas d'avoir une vie monacale, mais c'est de consommer plus sainement.
Allez, Nicolas, dans le Bas-Rhin, entre l'aspartame et le sucre, lequel est le plus néfaste? Alors?
Moi, j'irais ni l'un ni l'autre.
Ouais, mais il va falloir trancher. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
Du coup, il y a plus. Je veux dire, si on fait le choix dans tous les édulcorants qui existent, l'aspartame, déjà, on le met de côté. Celui-là, il est vraiment vraiment bien pointé du doigt. Il y en a d'autres aussi qui sont pointés du doigt à l'intérieur. Du coup, je pense vraiment. Ni l'un ni l'autre, vraiment. Vraiment, je vous déconseille ni le sucre ni l'aspartame.
Une cuillère de miel. Moi, je préfère mettre une cuillère de miel, j'allais dire, dans mon thé plutôt que de l'aspartame.
Ah oui.
Béatrice en Charente-Maritime, pourquoi pas une taxe sur le sucre comme pour le tabac?
Oui, alors en fait, non. Le problème des taxes, c'est que en fait, il y a ce qu'on appelle des. Alors déjà, ça augmente le coût pour le consommateur, donc il faut l'assumer politiquement parce que ça va toucher, on l'a dit, les gens qui ont les revenus les plus faibles, puisque ce sont ceux qui consomment le plus ce type de produit. Mais en plus, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des effets de substitution, c'est-à-dire que, en fait, si on augmente les taxes sur le sucre et que les gens se disent du coup on va aller vers des cigarettes ou des produits plus gras, etc., tout ça est plus compliqué que ça en a l'air.
Malgré tout, ça a été fait au Chili en 2014-2016 avec une interdiction de publicité justement qui cible les enfants, des gros logos noirs dans les supermarchés.
Ça a marché ?
Oui, ça marche pas mal.
Alexandre en Isère, un fruit contient naturellement du sucre, faut-il que j'arrête de manger des pommes ?
Non, manger des pommes, mais il ne faut pas manger un kilo de pommes par jour, c'est toujours pareil.
Non, mais
manger des pommes
ça,
et surtout manger
personne.
Avec la peau, vous la lavez et là il y a des fibres et c'est meilleur parce qu'encore une fois ça va être
on
du sucre fructose.
On nous dit tout le contraire de tout, on nous a dit qu'il faut éplucher nos légumes pendant des mois, maintenant il faut manger la peau.
Il faut les laver, vous mangez de la pectine autour.
Allez, il faut
juste
retourner.
Du miel français, attention, l'apiculteur.
Bio, tout ça. Il faut retourner au fourneau et passer des heures dans la cuisine pour éviter l'excès de sucre. J'ai pas le temps. C'est sur les produits transformés. Ça fera l'objet peut-être une autre émission. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.